Troisième chapitre.
Principes fondamentaux. Le calibre de l'arme.
En réduisant les armes à feu à des modèles portables, on abandonna l'usage de celles que l'on chargeait avec de multiples projectiles pour des canons à projectile unique. Au-delà du nom que l'on attribuait à ces différentes armes, aux formes et longueurs variables, il apparut nécessaire de pouvoir les distinguer en fonction d'une caractéristique unique, propre à chacune d'entre elles. La puissance de ces engins reposant sur leur capacité à propulser un projectile plus ou moins important, c'est tout naturellement sur cette considération que s'établit cette différenciation. La fabrication des projectiles jusqu'alors grossière demanda à être plus soignée et les fabricants se tournèrent rapidement vers le plomb. Ce métal mou et pesant, ayant la particularité d'être facilement fusible contrairement à d'autres métaux comme le fer ou la fonte, offrait l'avantage d'être aisément façonnable après son moulage. Sa masse importante permettait d'augmenter la portée du tir et sa justesse. La forme initialement retenue pour ce projectile fut celle de la sphère ou de la bille auquel on donna le nom de balle du grec ballo, je jette, je lance, par extension ce nom sera donné à tous les objets sphériques destinés à être lancés, exemple la balle de tennis. Désormais, l'arme pouvait être caractérisée par le diamètre de la balle de plomb qu'elle était capable de projeter. Restait à déterminer une échelle permettant d'universaliser ce mode de calcul. Pour éviter une multitude de diamètres fantaisistes, on prit pour référence la livre de plomb, environ 490 grammes. Cette quantité de plomb était alors divisée en autant de parties égales que l'on désirait, puis chacune de ces portions était ensuite fondue, afin d'obtenir une bille dont le diamètre dépendait du volume de plomb de chaque portion. Il ne restait plus qu'à forger un canon dont le diamètre de lame serait équivalent à celui de la balle. Cette équivalence ou exacte correspondance du latin calibrita donnera le mot calibre qui, à cause de sa racine latine, sera d'abord écrit calibre. Le calibre des armes fut alors désigné en fonction du nombre de balles obtenues par livre de plomb. Ainsi, on disait d'un mousquet ordinaire qu'il était au calibre de 20 balles de plomb à la livre, cela signifiait que le diamètre de son canon pouvait recevoir des balles de plomb dont le poids correspondait à un vingtième d'une livre. Pour obtenir ces billes, on versait le plomb fondu dans des moules dont le calibre ne s'exprimait pas en fonction du diamètre de la balle que l'on obtenait, mais en fonction du poids de plomb de cette balle, on disait par exemple un moule à 3 onces, environ 90 grammes, ce qui correspondait à une balle d'un diamètre de 11 lignes et demie, soit 25 mm. Grâce à des tables de conversion, on pouvait aisément transformer la valeur du poids de plomb au diamètre de la bille obtenue. La révolution tentera d'imposer le système métrique, le calibre des armes calculé de la même manière devait se rapporter au nombre de balles par kilogramme de plomb et le diamètre de la balle s'exprimer en millimètres, mais la livre avait encore de beaux jours devant elle. La variation du calibre des armes, pour l'adapter au but recherché, entraînait automatiquement des variations de longueur, de solidité et surtout de poids. Cet ensemble de contraintes, auxquelles il fallut rajouter celle de ne vouloir qu'un seul modèle de cartouche pour toute l'armée, quel que soit le type d'arme, décida d'un calibre qui devait pouvoir répondre à un juste équilibre entre tous ces critères. C'est ainsi qu'à compter du premier modèle arrêté en 1777, le diamètre des balles fut fixé à 18 à la livre, environ 27,2 grammes, soit 7 lignes 4 points, c'est-à-dire 16,54 mm. Le calibre des fusils fut fixé à 7 lignes 9 points, soit 17,48 mm, celui des petites armes, mousquetons et pistolets de cavalerie, à 7 lignes 7 points, ou 17,11 mm, le pistolet gendarmerie, qui était une arme très courte et spécifique à ses missions, à 6 lignes 9 points, correspondant à 15,23 mm. Si ce système de calcul simple pouvait aisément s'appliquer pour des armes rudimentaires, il devint de plus en plus contraignant au fur et à mesure de l'évolution des armes et notamment à celle de la cartoucherie. En effet, en spécifiant la balle par son poids et non par son diamètre, on se condamnait à n'utiliser que des balles dont le diamètre résultait d'une division de la livre de plomb par des entiers naturels. Ainsi, il était impossible de fabriquer une balle dont le diamètre aurait dû correspondre à 19,4 ou 20,6 balles de plomb à la livre. Une décision ministérielle de 1819 changea l'appellation des balles. Il fut alors décidé de ne plus désigner les balles par leur nombre à la livre, mais par leur diamètre exprimé en millimètres et fractions de millimètres. Il faudra cependant attendre 1827, lorsqu'on adopta la balle de 19 à la livre soit 7 lignes 3 points, ou 16,35 mm, de diamètre, pour mettre en application cette décision. Les balles étant sphériques, l'énonciation de leur diamètre suffisait à leur détermination. L'emploi des armes rayées ayant conduit à de nouvelles formes de projectiles et la forme sphérique ayant été abandonnée pour éviter toute confusion, il fut décidé en 1857, sur la proposition du comité d'artillerie, et par analogie avec ce qui se pratiquait déjà pour les armes, que les balles seraient désignées par l'année de leur adoption précédée du mot modèle. C'est ainsi que l'on disait balle d'infanterie, modèle 1857, balle de chasseur, modèle 1859.
Le forgige des canons.
Quel que soit le niveau de sophistication des mécanismes de mise à feu ou des accessoires entrant dans la fabrication des armes, le canon en demeure l'élément principal. Arriver à obtenir un tube aussi parfait que possible et résistant, calibré au diamètre des balles de plomb, demandait de la part des canonniers une grande dextérité et une maîtrise parfaite de l'utilisation de la forge. Jusqu'au Premier Empire, le procédé de fabrication a été celui que nous allons décrire ici. Les progrès en matière de métallurgie avec l'invention d'outils industriels comme les laminoirs modifieront le travail d'usinage, mais le procédé restera le même. Ainsi, pendant plus de deux siècles, les forgeurs devaient à partir des barres de fer moulées grossièrement en forme carrée par les fonderies, préparer d'abord la pièce qui allait leur servir à élaborer le canon. Cette étape appelée étirage, consistait à mettre sous la forme d'une lame plate le fer brut. Réalisée à la forge, la lame était entièrement façonnée au marteau sur l'enclume par un maître forgeron et ses aides. Cet ouvrage long et laborieux exigeait plus de travail que la réalisation du canon lui-même. Au terme de cette première étape, le forgeron devait obtenir un fer plat d'un mètre de long dont l'épaisseur et la largeur allaient en diminuant d'une extrémité à l'autre. Cette opération terminée, la lame était ensuite chauffée au rouge et roulée sur elle-même, puis sur une broche dans toute sa longueur pour former un cylindre creux. Pour souder le canon, les deux parties de la lame qui avaient été martelées préalablement en biseau, étaient chauffées à blanc, et fusionnées à coups de marteau sur une broche introduite juste avant le martelage dans le canon. Une fois terminé, le canon était entièrement recuit pour rendre le fer plus doux, et le forgeron profitait de cette opération, pour s'assurer de la rectitude du tube ainsi obtenu en le dressant au besoin sur son enclume. Le côté le plus épais, devant contenir l'explosion de la poudre, s'appelait le tonnerre tandis que l'autre extrémité, formant la sortie du canon, s'appelait la bouche. À l'issue, le canon passait dans les mains du foreur. Attaché sur un chariot mobile, le canon était traversé par une série de plusieurs forêts tournant rapidement, afin d'obtenir un cylindre sans défaut. Compte tenu de l'état rudimentaire du canon forgé, ce travail était long et délicat. Les premiers forêts, plus petits, cassaient souvent. Le travail de forage n'était terminé que lorsque le diamètre interne du canon était inférieur de 1 mm au diamètre définitif. Arrivé à ce stade, l'âme du canon recevait sa finition. C'était le travail d'alésage, qui permettait de retirer les quelques dixièmes de millimètre restants pour mettre l'arme au calibre. Le dernier alésoir portait le nom de mèche à polir ou polissoir. Cet outil ému sur lui-même autour de son axe était animé par l'ouvrier alésseur d'un mouvement de va-et-vient dans le canon. La vérification du forage de l'âme se faisait au moyen d'un cylindre d'acier du diamètre exact de l'âme. Ce cylindre en parcourant l'âme du canon ne devait pas être arrêté dans sa course ni être freiné dans une partie ou dans l'autre. Les points où cet effet avait lieu étaient de nouveau soumis au polissage. L'usinage intérieur du canon étant arrivé à son niveau de finition, le canon était alors confié au tourneur qui tournait la surface extérieure afin de lui donner une forme cylindrique. Ce travail était suivi de l'émaillage qui consistait à enlever avec la meule les inégalités qui restaient après le tournage. De la longueur du canon dépendait la justesse du tir et sa portée, mais il fallut trouver un compromis entre ces impératifs et les exigences dues à un chargement facile et un poids raisonnable. Les canons des premiers fusils furent fixés à 44 pouces, soit 1,18 m, comme l'étaient les derniers mousquets de 1650. Ils seront diminués de 2 pouces, soit 4,4 cm, en 1763 et ramenés à 40 pouces, soit 1,08 m, en 1820.
Les modèles d'armes.
La mise au point des armes donna lieu pendant de nombreuses années à de multiples expériences et inventions de toutes sortes, réalisées par des particuliers. Cette évolution reposait essentiellement sur l'adresse ou le caprice d'ouvriers isolés. Il n'y avait rien d'arrêté, et même les manufactures royales, comme celle de Tulle fondée en 1646, modifiaient la fabrication de leurs armes au gré des trouvailles. Les fourbisseurs, arquebusiers et autres armuriers rivalisaient d'ingéniosité et proposaient une multitude d'inventions qui firent l'objet de nombreux brevets, sans pour autant qu'ils ne trouvent une application immédiate ou à venir. Dans ce contexte, les mousquets et autres armes de guerre fournies par des entrepreneurs particuliers travaillant pour le compte de l'État n'étaient soumis à aucun contrôle sérieux. Parmi les principaux fabricants d'armes, dont la renommée avait dépassé nos frontières, un grand nombre d'entre eux étaient installés à Saint-Étienne. L'époque à laquelle la fabrication des armes à feu fut introduite dans cette ville est fort incertaine, mais des documents attestent de son activité en 1536, avec l'achat par les consuls du puits de 56 arquebuses. Pendant plus de deux siècles, le gouvernement se contenta de commander les armes dont il avait besoin aux armuriers de la ville, qui pouvaient les lui fournir aux meilleures conditions. Les officiers d'artillerie chargés de sélectionner les armes devant équiper les troupes en faisaient seulement l'épreuve et la réception sans en surveiller la fabrication, ce qui donnait lieu à des armes de qualité bien différentes, tant sur le plan de la conception que sur celui de la fiabilité. Pour s'assurer de l'uniformité et de l'excellence du produit, il fallut surveiller la qualité des matières et toute la chaîne de fabrication. En 1717, le roi envoya à Saint-Étienne un officier d'artillerie avec la qualité d'inspecteur secondé par un contrôleur. Les armes de guerre furent alors soumises à un contrôle plus rigoureux. Pour mettre un terme aux fantaisies des armuriers, on décida que dorénavant, toutes les armes seraient fabriquées suivant un modèle unique appelé fusil modèle. On fit des règlements sur les proportions et les dimensions des pièces, la qualité des matières et on ordonna l'épreuve et la visite des matières premières et des pièces confectionnées, l'on fixa des procédés uniformes pour la fabrication. Le premier modèle de fusil qui fut officiellement établi, prit le nom de fusil modèle 1717 et fut adopté en France pour l'infanterie. Il avait un canon rond de 44 pouces, soit 1,19 m, et était équipé d'une baïonnette à douille fendue sans pontée ni virole, ayant une lame de 14 pouces, soit 38 cm, à 3 quarts non évidée. Cette uniformisation devait par la suite s'appliquer à l'ensemble des armes à feu ou armes blanches équipant les armées françaises, puis être imposée aux armuriers recevant une commande de l'État. Les règlements concernant la fabrication des armes furent étendus aux autres armes qui présentaient des caractéristiques spécifiques suivant qu'elles étaient destinées à l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie ou la marine. Elles furent à leur tour millésimées lorsqu'elles reçurent leur première modification, les armes nouvelles prenant le millésime de leur création. À compter de ces premiers modèles, toutes les modifications ou améliorations notables, retenues par les commissions d'armement, firent l'objet d'un nouveau modèle qui prit le nom de l'année durant laquelle elles avaient reçu cet agrément. Les progrès dans le domaine de la métallurgie permettant d'améliorer continuellement les armes, ce n'est pas moins de 11 millésimes qui furent arrêtés et fabriqués pour le fusil de l'armée française jusqu'au modèle de 1777 qui servira dans toutes les principales guerres de la Révolution. Ce modèle fut celui qui resta le plus longtemps en service. Il sera maintes fois perfectionné, mais présentera souvent l'inconvénient de rater. Il sera modifié en conséquence en l'an 9, 1801, puis sera remplacé par le modèle 1816 et le modèle de 1822. Le calibre de ces fusils était réglé pour recevoir des balles de plomb de 18 à la livre.